vraiment dans la joie de pouvoir vivre ces cultes avec vous ce matin. Et je ne sais pas combien de personnes ont été présentes le dimanche dernier à Palexpo, mais pour ce qui me concerne, j'ai été vraiment très interpellé pour la particularité de Genève. Et ce message m'avait vraiment touché. Quel privilège pour nous qui vivons ici, avons, vis-à-vis des plusieurs nationalités représentées ici, et vis-à-vis même du reste du monde. Et comme New York, j'ai été franchement interpellé par ce message, le besoin de pouvoir témoigner. Et nous sommes vraiment dans une position stratégique pour pouvoir changer ce monde. Et je suis sorti avec cette idée et je me suis dit, dans notre communauté de marins, nous avons aussi ce privilège de nous édifier mutuellement pour pouvoir nous apprêter à cette grande mission. Comme vous le savez, ces jours-ci, nous sommes en train d'étudier des personnes discrètes dans la Bible. Peut-être que ce matin, vous êtes ici, vous n'avez peut-être pas l'habitude de passer devant ou de prendre une grande activité dans notre communauté. Peut-être qu'on ne fait pas allusion à vous. Et peut-être que vous venez seulement écouter, vous dites « Non, je ne sais pas prier, je ne sais pas chanter, je ne sais pas prêcher. » Mais, comme vous le savez, depuis quelques dimanches passés, nous sommes en train de parcourir certaines personnes qui sont aussi passées discrètement dans la Bible. Et à travers leur vie, nous pouvons tirer des leçons utiles pour nous, afin de nous encourager. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation où, franchement, nous pouvons avoir un impact sur plusieurs personnes, ici à Genève et dans le reste du monde. Et aujourd'hui également, nous allons terminer ce culte par le repas canadien et je crois que dans cette vie de convivialité, on s'encourage mutuellement. Si vous n'avez rien apporté, restez et il y a toujours quelque chose qui reste. Donc vous êtes tous invités pour rester pour ce repas canadien à la fin. Je voudrais saisir cette occasion pour pouvoir remercier plusieurs personnes qui ont participé pour l'organisation de ce culte. Je pense à Catherine et puis tout le groupe des musiciens, chanteurs, tout ça. Et puis, je pense à nos amis en fond, la projection, la sono. Et puis, il y aura aussi Michel qui va nous passer les annonces vers la fin de ce culte. Et je suis très content parce que trois enfants sont arrivés ici spontanément. Je ne les ai pas invités. Et nous avons un message pour vous. Et ce matin, j'ai jugé bon de pouvoir utiliser le message préparé par Henri et Martine Bachet. Et je passe la parole à nos amis enfants de nous faire passer cette vidéo dans le YouTube.
Est-ce que tu sais que Jésus racontait des histoires ? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger ? Eh bien, figure-toi que les bergers s'occupent bien de leurs moutons. Ils les soignent, ils les nourrissent, ils leur donnent à boire. Et c'est simplement pour nous dire que Jésus
Lui aussi, il s'occupe bien de nous. Il nous écoute, il nous console, il nous conseille. Comme le berger s'occupe de ses moutons, eh bien, Jésus s'occupe de nous. Ce berger-là, il avait un grand troupeau. 10, 20, 30 moutons, 40, mais non, bien plus. Il en avait 100. Tu t'imagines le troupeau dont il devait s'occuper? Heureusement qu'il avait sans doute des chiens pour l'aider. Le soir, le berger ramène tous ses moutons dans un enclos. Un enclos, c'est un endroit avec une barrière pour qu'ils puissent passer la nuit. Et il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 92, 99. Ah non, je me suis trompée. Je dois en avoir 100. 97, 98, 99. Mais c'est pas vrai. Il y en a un qui manque. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas rentré? En effet, le 100e mouton n'était pas avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que le soir, il n'était pas avec le reste du troupeau. Un mouton tout seul, c'est pas possible. Il doit s'être coincé quelque part, tombé dans un trou, pauvre mouton. Et le voilà dans la nuit, perdu. Alors, il crie, il appelle. Oui, berger, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, franchement, est-ce que le berger va s'occuper de lui? Un seul mouton. Eh ben non, c'est comme Jésus. Il s'occupe de tout le monde, même si c'est quelqu'un qui n'est pas très très important. Alors ce soir, le berger prend sa canne et il part à la recherche de son mouton. Et il marche, et il n'a pas peur de la nuit, et il avance, et il écoute. Parfois il s'arrête, il regarde. Où est mon mouton ? Mon 100e mouton que j'aime. Est-ce qu'il entend quelque chose? Et puis le voilà qui crie, qui appelle. Mouton! Mouton! Où es-tu? Je te cherche! Je t'oublie pas! Je pense à toi! Mouton, réponds-moi! Jésus, il est comme ça avec nous. Il nous cherche. Et voilà notre berger, je crois bien qu'il a entendu quelque chose. Un petit bêlement qui vient d'où? Du fond d'un trou. Mais c'est normal que ce pauvre mouton ne pouvait pas revenir. Il est coincé. Alors il se penche. De la même manière que Jésus s'occupe de nous. Il n'a pas peur des trous. Il n'a pas peur du vide. Mouton, je t'ai retrouvé, je t'ai cherché partout. Alors il le prend, il le met sur ses épaules parce que le pauvre, il est fatigué. Il a eu peur, il a eu froid. Et voilà que notre berger, tout content, qui rentre à la maison avec son mouton perdu, qui est un mouton retrouvé, même si c'était le dernier des 100 moutons. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils attendent le berger dans la bergerie. Alors le berger arrive avec son mouton et il appelle. Ohé les voisins, ohé les amis, venez, venez. Regardez qui j'ai retrouvé au fond d'un trou. C'est mon mouton chéri, je l'avais perdu. Alors tous les amis sont arrivés pour faire la fête avec le mouton et avec le berger.
Je crois que nous allons dire merci au Seigneur, car à travers cette vidéo, chacun de nous ici présents était portant devant la face de Dieu. Jésus est prêt pour aller nous chercher là où nous sommes. Et comme pour les enfants, nous aussi, nous sommes tous devant Dieu comme des enfants. Prions le Seigneur avant de libérer les enfants. Et nous allons au même moment remettre ces cultes entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir écouter ta douce voix. Merci pour cette parabole de moutons perdus. Seigneur, nous nous retrouvons tous à travers ce message. Et notre prière ce matin est que tu puisses nous bénir tous, les enfants, tout comme les adultes. Nous voulons penser à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir ce matin pour diverses raisons. Seigneur, que ta miséricorde les couvre là où ils sont. Nous voulons te remettre toutes les activités, les chants que nous allons chanter pour glorifier ton nom. Le message que nous allons écouter, Seigneur, utilise ton serviteur Roger puissamment pour la gloire de ton nom. Nous te prions également pour les annonces, les encouragements que nous allons avoir à travers le repas canadien. Et Seigneur, que tout te donne gloire, car c'est au seul nom de Jésus que nous te demandons ces choses. Amen. Merci bien. Et vous êtes libre. Et maintenant, nous allons laisser Catherine et l'équipe pour pouvoir nous guider dans un temps de louange.
Alors Catherine, elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a Lorraine, Anne-Claude, Joël et Cécile, et il y a vous. Donc je compte sur vous, parce que c'est vrai que l'idée c'est de glorifier le Seigneur ce matin. Et j'avais envie de commencer ce temps de louange par ces quelques versets d'espérance hein, qui sont tirés des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 19, 21 à 26. « Quand je pense à ma détresse hein, et à ma misère, hein, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, hein, ce qui me donnera de l'espérance. Hein. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque mois, chaque année, chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. J'aime ces versets qui nous invitent à l'espérance. Et alors qu'il y a beaucoup de cruauté et d'injustice dans ce monde, loin d'ici, mais aussi beaucoup de cruauté et d'injustice tout près de nous, c'est vrai que parfois, on a juste envie de dire « Voilà Seigneur, je viens comme je suis, tu me prends comme je suis. » Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Nous avons appris un chant de notre église. Vous savez que je fais partie maintenant avec Thierry Battisti, je fais partie d'une chorale de gospel. Et nous avons pris ce chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore. » Et l'autre jour, alors que nous vivons des instants extrêmement triste dans le gospel. Nous avons chanté ce chant et en anglais, c'est fou, ça m'est venu comme... en français, on chante, viens, ne tarde plus, adore, tel que je suis, adore. Et en anglais, c'est come, just as you are, juste comme tu es. Et c'est juste le fait d'avoir chanté dans une autre langue, des fois. Et je me suis dit, voilà, on vient avec toute notre tristesse, parce qu'il y a une personne qui vit des choses très difficiles dans le cœur, et voilà, viens juste comme tu es. Et je me suis dit, ce matin, je vais vous dire, venez juste comme vous êtes. Et la présence du Seigneur nous attend, nous ouvre les bras. Il est grand, il est bon, et nous voulons espérer en lui.
« toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
Nous voulons t'accueillir, nous voulons espérer dans ta présence. Je te remercie parce que tu nous accueilles tel que nous sommes, juste comme on est, juste comme on peut venir parfois devant toi avec nos faiblesses, nos tristesses, nos cris de colère, notre joie aussi de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles, tu nous ouvres les bras, tu nous cherches. Comme tu cherches aussi cette brebis. Sois loué, Seigneur. Hosanna, nous voulons élever nos voix pour le louer.
Un chant s'élève. Se tourne vers toi.
propose d'élever quelques prières de reconnaissance à notre Seigneur. Seigneur, nous voulons espérer en toi. Notre présence ici, c'est un signe d'appartenance. C'est un signe que, aussi même si nous n'avons pas toutes les réponses, nous souhaitons nous présenter devant toi. Seigneur, merci de, parce que tu es Dieu, parce que tu restes Dieu dans nos questions. Tu restes celui qui nous accueille. Parce que tes compassions ne sont pas épuisées, Seigneur. Amen.
Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle, la vie en abondance. Alors, Seigneur, oui, devant toi, nous fléchissons le genou.
Amen. Amen. Je vous invite à un dernier chant, le 910. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur.
Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Merci Catherine. Notre méditation de ce matin se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18. Nous allons lire à partir du 18e verset. Après, je vais lire dans la traduction Le Semeur. Après cet incident, Paul resta à Corinthe. Le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avant de quitter le port de Sandré, Paul se fit raser la tête car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Quant à lui, il se rendit à la synagogue pour y discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur dit toutefois, « Je reviendrai vous voir une autre fois s'il plaît à Dieu. » Il repartit donc d'Éphèse par mer, il débarqua à Césarée, et de là, il monta à Jérusalem où il alla saluer l'Église. Puis il redescendit à Antioche, et après y avoir passé un certain temps, il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de la Phrygie, en affermissant tous les disciples dans la foi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus-Christ. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils les prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix des dieux. Prions pour ce message. Seigneur notre Dieu, nous voici tous devant toi, prêts pour t'écouter. Viens, parle-nous pour la gloire de ton nom. Amen.
Amen.
Tony nous a rappelé ce matin que nous visitons une sorte de thème ces derniers temps, des personnages qui sont un peu moins connus dans le récit biblique. Et j'y pensais, vu qu'on s'approche dangereusement au Saint-Valentin, qu'on avait parlé d'un couple ce matin. Et nous allons faire un tour en trois étapes, où nous allons visiter la Grèce, la Turquie, et puis nous terminerons notre voyage à Rome. Et toutes ces informations que je vais vous partager se trouvent dans le guide de routard biblique, on va voir. Nos hôtes, on va les découvrir, on va faire des déplacements importants dans ces trois pays sur une période d'environ 10 ans, et ce sera toujours le même couple qui va nous accueillir. Ce couple a été radicalement changé suite à l'arrivée du bon nouvelle du bon berger chez eux. étrangers et voyageurs sur cette terre, nous allons réfléchir quelles leçons pour nous nous pouvons en tirer de ce grand voyage. Laissons, j'avoue, quelque peu orienté à l'approche du 14 de ce mois. Alors, première visite, nous sommes en acte 18, 1 à 3. Si vous n'avez pas votre guide avec vous, le manuel, je sera affiché. Acte 18, 1 à 3, nous découvrons ceci. Après cela, c'est son séjour à Athènes. Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Voilà. Après un séjour plutôt frustrant à la capitale de la Grèce, Paul se rend à Corinthe. Donc, je vous propose de faire un petit tour en Grèce pour le rejoindre. Nous sommes dans l'an 50 après Jésus-Christ. Nos hôtes seront donc à Aquila et Priscille. C'est le couple que nous allons découvrir ensemble ce matin. À table, nous apprenons qu'Aquila, qui est un juif, était originaire du Pont. Alors, si vous avez été là vendredi soir, écoutez le voyage en Arménie. En fait, là, on était tout près du pont. C'est la côte sud de la mer Noire et ça touchait à l'Arménie de l'époque. Il avait déménagé à Aquila en Italie, plus précisément à Rome. Est-ce que c'est là qu'il a rencontré Priscille? Il ne l'a pas dit. Mais une fois au souper, on apprend que l'empereur, qui s'appelle Claude, il est empereur dans l'an 50, beaucoup plus sympa que son prédécesseur, c'était pas difficile, c'était Caligula, laisser la toute jeune église qui se retrouvait là en paix. Mais, suite aux tensions dans la communauté juive, Aquila soupçonnait, c'est parce qu'on y annonçait que Jésus est le Messie, Claude avait chassé tous les juifs, qui étaient très nombreux, de la capitale. Coup de chance pour Paul et pour nous, qui les visitons, les voilà installés à Corinthe et Paul et Aquila vont même travailler ensemble à l'atelier. Fabricants de tentes ou travailleurs en cuir, paraît-il que les tentes à l'époque étaient fabriquées en cuir. Corinthe. Il faut quand même qu'on sorte visiter cette grande ville, parce qu'elle est célèbre pour sa culture, son commerce, mais surtout son immoralité. Donc, évitons, messieurs, le temple d'Aphrodite, quartier avec, en tout cas, on raconte, 1000 prostituées, le quartier du Pâquis de Corinthe. Mais heureusement, aujourd'hui, on est dimanche, donc on est entre nous en sûreté. Quelle surprise donc d'entendre une prédication, non pas sur à la suite du Christ rejoindre Corinthe ensemble, mais un refrain « Tout m'est permis », martelé avec conviction. On voit Paul, qui est toujours dans notre groupe, prendre furieusement des notes qu'il va utiliser pour leur écrire sa première lettre quelque temps après, qui se trouve dans notre manuel d'ailleurs. En voilà quelques extraits. J'entends parler constamment d'immoralité sexuelle parmi vous. Vous ne faites pas de distinction avec le milieu ambiant qui vous entoure, il leur dit. Ou encore, voilà un autre extrait. Tout m'est permis, entre parenthèses vous dites, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et puis il arrive là où il veut arriver. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée a un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Partager l'acte sexuel, rappelle Paul, c'est ouvrir tout ce que j'ai en moi à l'autre. Paul nous confiait que de sortir les relations sexuelles du cadre du mariage, ce serait de se créer des problèmes, pour l'homme, quand on n'arrivera plus à résoudre. Et je crois que l'expérience montre qu'il avait raison. Non, on change de temple, il y a un autre esprit, un autre comportement, parce qu'il va terminer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas, votre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Mais voilà, on va quitter Corinthe pour voyager avec notre équipe et on va atterrir ensuite en Turquie, plus précisément à Éphèse. On a passé 2 ans ensemble avec Aquila et Priscille. Voilà, on avait entendu la lecture que Tony nous a faite. On est embarqués donc ensemble jusqu'en Syrie avec Priscille et Aquila. C'est ici, en effet, que Paul, l'apôtre, choisira d'installer son bureau pour, en tout cas, 3 ans. Car c'est un lieu stratégique, une ville portuaire. Il y a le très grand théâtre que peut-être vous voyez là. Merci Thierry. Qui pourrait recevoir jusqu'à 25 000 personnes assises. Très utile s'il pouvait faire venir Billy Graham. Son temple d'Artémis, dont la statue était tombée directement du ciel, on nous raconte, était un des 7 merveilles du monde antique et aussi un lieu de pèlerinage avec des milliers d'officiants et un commerce florissant en statue d'Artémis. Vous avez tout le récit, en fait, en acte 19, le chapitre qui suit là où on est. Mais là, on se devance. Selon Aquila et Priscille, c'est un lieu oppressant, avec ses pratiques occultes, dont de nombreuses personnes vont témoigner une fois délivrées. Je vous lis un extrait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la force du Seigneur, par la force du Seigneur, la parole va se répandre efficacement. Mais voilà, nous venons d'arriver et nous sommes en l'an 52 après Jésus-Christ, plus précisément le 7 février. Et nous voulons parler ce matin d'Aquila et Priscille, ou je devais plutôt dire de Priscille et d'Aquila, car vous avez remarqué que le guide du routard biblique a maintenant inversé l'ordre. Vous vous souvenez, c'était d'abord Barnabas et puis Paul dans les voyages, et on y prête une grande importance qu'à un moment donné, c'est Paul qui va prendre le dessus et être le leader de Barnabas-Paul dans leur voyage missionnaire. Donc, ce n'est pas anodin. Alors, pourquoi maintenant nous trouvons Priscille et Aquila, et non plus Aquila et Priscille? Je rappelle qu'on est à Éphèse, là où nous lisons dans la lettre qui lui est adressée: « Femmes, soyez soumises chacun à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Et voilà que nous trouvons Priscille en tête. C'est très gênant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Est-ce que c'est maintenant que Priscille est devenue l'enseignante de ce couple? À en croire l'histoire d'Apollos qui est passée par là, on peut le supposer. Mais vu qu'on a passé 2 ans chez Priscille et Aquila, je respecte l'ordre, on a pu voir que dans le couple, il y a une belle complémentarité et non pas une concurrence. Ils ont appris, ils ont dû apprendre, comme tout couple, à savoir gérer ces questions. Et ils sont arrivés à une soumission mutuelle. Priscille se plaît à dire « Les hommes ont besoin de plus de respect qu'ils ne méritent. » Et à Aquila de répondre tout de suite « Les femmes ont besoin de plus d'amour qu'elles ne méritent. » Et ils disent ça non pas pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais pour nous rappeler qu'il faut s'attendre que le conjoint ne soit pas parfait. Il ne faut pas s'attendre que notre conjoint soit parfait pour le respecter, les Priscilles parmi nous, ou pour l'aimer, les Aquilas. Sans doute, quand Paul écrit à l'église à Éphèse, c'est pour ça qu'il les exhorte. Juste avant de parler des relations dans le foyer, soyez remplis de l'esprit. De nous-mêmes, nous le savons, de nature, on est irrité très vite après nos conjoints, frustrés, et on sort des choses pas toujours très belles. Soyez remplis de l'esprit, le Seigneur veut nous aider dans nos relations. Mais partons vite en Italie, à Rome, où nous allons à nouveau retrouver notre couple. Je vous lis les 3 premiers versets de Romains 16, que je crois que vous voyez sur l'écran. Je vous recommande, pas les 3, mais de 3 à 6. « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà, on y est. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Excusez-moi, je n'ai pas indiqué qu'on fait avancer les clichés. Voilà, on a le texte maintenant devant les yeux. Nous sommes à Rome et Paul écrit aux chrétiens là-bas et nous découvrons que nos amis, Prisca, cette fois, pourquoi Prisca et pas Priscille? En fait, Prisca, c'est le prénom exact que l'apôtre Paul utilise et Luc, qui a dû la connaître, a utilisé le diminutif Priscille. Mais Prisca et Aquila, ils y sont maintenant de retour. Comme plusieurs ici dans notre église, qu'est-ce qui se sont déplacés? Ces deux. Rome. Alors, Rome, nous connaissons. Il y a à nouveau un grand nombre de Juifs qui y sont retournés, environ 1 million d'habitants. Heureusement pour nous qui sommes là avec eux, la grande incendie de l'an 64 n'a pas encore eu lieu, mais c'est Néron, maintenant l'empereur, il a suivi Claude, et c'est lui qui va accuser les chrétiens d'être les fautifs de cet incendie. 3 quartiers rasés, dévastés. Juste assez, heureuse coïncidence, pour y faire construire son immense palais par la suite. Donc, nous sommes environ dans l'an 57. Le Colisée, avec ses 50 000 places, n'a pas encore été construit. Il sera construit environ 20 ans plus tard. Le basilique de Saint-Pierre non plus. Mais nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, mais pour retrouver ce couple discret, nous l'avons dit, qui cherche à vivre leur foi en Jésus au quotidien. Compagnons d'œuvre, dit l'apôtre Paul, ils ont le même objectif. Ils sont les associés ensemble pour faire avancer, comme Claude a prié, pas l'empereur, mais Claude Bernigoni, comme il a pris qu'ils ont ce même souci d'être témoins là où le Seigneur les envoie. Et Paul rappelle, ils ont même risqué leur vie dans ce souci de voir progresser l'Évangile, probablement lors des émeutes à Éphèse, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Nous découvrons qu'ils ont, comme on dirait aujourd'hui, un groupe de maisons, une cellule de quartier qui se retrouve chez eux. C'était le verset 5. Il en sera question, et c'est notre dernier cliché, en 1 qu'on les retrouve, 1 Corinthiens 16, 9. Voilà. Où on trouve Aquila et Priscille, semble-t-il, ils sont vraiment interchangeables, ces deux. Je me suis demandé si ce couple avait des choses aussi à dire à nos célibataires, solibataires, sur des critères de choix. L'important dans ce couple n'est pas si c'est Aquila et Priscille ou Priscille et Aquila, mais c'est d'être sur la même longueur d'onde dans les priorités absolues. Parce que, vous voyez, la dernière fois on parle d'eux, c'est à nouveau Prisca et Aquila. Ce n'est pas l'ordre qui est en tête, qui suit, qui est important. Mais c'est être quelque part. Et ça, dans tout mariage, pour chaque partenaire, c'est la question, il me semble, à se poser. Parce que chaque Chacun dans un mariage a son modèle. Il y aura deux traditions de famille différentes. Il y aura deux styles de vie. Ils seront différents. Ils auraient vécu, chacun aurait vécu un vécu différent. Donc, des adaptations, des frictions, c'est inévitable. Mais sur les convictions profondes concernant la foi, qui sortent au moment des naissances, des rencontres de famille, là aussi, c'est une question, comment être le mieux placé? Ce n'est pas notre première préoccupation qu'on fréquente, mais pour être témoins ensemble de Jésus-Christ Sauveur. J'aimerais à ce sujet juste lire, avant de terminer, une citation, le mariage en 10 questions, que je peux recommander si vous y réfléchissez. Dans un couple, partager la même foi, c'est être plus fort ensemble, unis par une perspective fondamentale de la vie. C'est être au bénéfice de la même espérance dans les difficultés. C'est se confier ensemble à la même grâce. Quand la difficulté surgit dans le couple, c'est être tous les deux devant la même parole, appelant au pardon, à la réconciliation, à l'esprit de service. Bien sûr que partager la même foi n'abrite pas des difficultés et des crises. Par contre, être tous les deux disciples de Jésus-Christ, c'est se désaltérer à la même source, partager la même espérance, c'est reconnaître au-dessus de soi une même autorité, celle de Jésus Seigneur. C'est avoir le privilège de l'expérience d'un amour unique à partir duquel il devient possible d'apprendre à nouveau à aimer, d'apprendre à pardonner, à respecter. Mais je dois conclure. Nous ne sommes pas tous appelés à accueillir des chrétiens de passage. Ce n'est pas forcément prioritaire de nos jours, quoique chacun, sans doute, a des expériences heureuses à ce sujet. Exercer l'hospitalité, nous avons tous à apprendre d'Aquilas et Priscille, ou plutôt de Priscille et Aquila, parce que c'est probablement elle qui a dû faire la cuisine. Tous ne sont pas appelés à accueillir dans sa maison une église, un groupe de quartier, ni de changer constamment de lieu, mais à la suite d'Aquila et Priscille, ou de Priscille et Aquila, à la suite de Paul, à la suite de Jésus, n'est-ce pas l'enseignement clair de la vie de chacun, marié ou célibataire, de faire des choix d'activité, de lieu ou de partenaire qui permettent le progrès de cette bonne nouvelle, de ce bon berger qui est venu, non pas pour condamner, mais pour libérer ses brebis tombées dans des esclavages, comme à Corinthe, pour délivrer des emprises, comme c'était le cas à Éphèse, ou encore à Rome, pour permettre d'échapper à un royaume totalitaire, méchant, pour entrer dans le royaume du Fils bien-aimé. Aquila, Priscille, Priscille, Aquila, des gens comme vous et moi, mais qui ont fait une différence dans leur temps, comme Tony a dit, selon leur choix. Que le Seigneur nous soit en aide de faire de même. Amen.
Nous remercions le Seigneur pour ce message d'encouragement qui montre l'égalité dans le couple. Tantôt c'est Aquilas qu'on cite d'abord avant Prisca ou Priscille. Et des fois c'est Priscille, Prisca avant Aquilas. Que le Seigneur nous aide à réfléchir dans cette vie d'humilité mutuelle qui n'est pas très facile, je dois l'avouer d'abord chez moi. Comme Fanny n'est pas là, elle est coulée au lit. Mais en fait, c'est une interpellation pour nous tous de voir. Et nous remercions le Seigneur pour ce message, que l'Esprit nous aide et nous allons enchaîner en réfléchissant toujours sur cette vie d'humilité à travers même ce sacrifice que Jésus s'est donné lui-même. Et pour ce temps de la scène, nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du 23e verset. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les rompit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, scellé de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à mon retour. Amen.
Seigneur, tu es venu non pas pour condamner, mais pour nous relever. Tu vois que nous tous, nous avons fait des choix à différents moments qui n'étaient pas forcément ton choix. Nous te bénissons de ce que tu nous as point abandonné, mais tu continues à nous accompagner. Nous te remercions que là où nous avons pu ainsi nous créer des ennuis, tu sais faire concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous te prions de continuer à exercer ta grâce, de nous donner sagesse dans nos choix à partir de maintenant. Nous te remettons le passé, nous regardons vers l'avenir avec confiance, parce que tu es là avec nous. Merci pour ce repas qui nous rappelle que la réalité, que tu es un Dieu qui pardonne, qui restitue, qui relève, qui annonce un avenir glorieux. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Merci. Si deux personnes peuvent venir nous aider pour distribuer. Et comme d'habitude, vous le savez, le vin, le raisin est au milieu. Et si vous voulez la coupe, Roger va s'en occuper. Merci. Le moment est venu pour exprimer notre générosité au travail du Seigneur par l'offrande et nous allons le faire à travers les chants. Prions pour les offrandes et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour le don précieux que tu nous as accordé à travers Jésus. Merci pour le privilège de pouvoir t'offrir cette offrande en guise de notre affection, amour pour toi, Seigneur. Notre prière est que tu puisses bénir ce qui vient d'être offert pour toi. Bénis-le pour que ton travail aille de l'avant, aussi bien ici et ailleurs dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces et c'est Michel.
Voilà, alors les annonces pour aujourd'hui dimanche, 8 février, c'est juste, c'est le 7 aujourd'hui, oui, c'est le 7 février. Alors tout à l'heure, comme on l'a dit, repas canadien, et après le repas canadien, il y aura des informations importantes au sujet du chemin de la passion, l'action qui se déroulera au CEPOM. Vous voyez, le chemin de la passion, c'est un parcours de Pâques hein, qui est en 3D, qui se déroulera, qui sera implanté dans le cadre du centre œcuménique. La fête d'inauguration le 12 mars, 9h-17h30, animation pour petits et grands. Et puis une journée des églises le dimanche 13, c'est-à-dire que ce jour-là, l'exposition sera ouverte pour les communautés de Mérin. Là, ça se balade. Pour les communautés de Mérin, avec un repas canadien, une visite de l'exposition vraiment destinée à nos communautés. Et nous avons besoin de vous pour des tâches pratiques, le montage, le démontage de l'expo, mais également pour des tâches d'accueil, de relations, de présence dans ce cadre. Également, animation pour les enfants, la confection de pâtisseries, et tout ça, vous pouvez, il y a plus de détails et une possibilité de s'inscrire sur les panneaux qui sont dans le foyer, sur le comment ça s'appelle ce truc ? Le flip chart à roulette. Voilà, dimanche prochain, échange de chair avec l'église de l'Espérance au Grand Lancy, c'est Willy Schildknecht qui prêchera ici. Roger prêchera à l'Espérance ? Oui, à l'Espérance. Samedi 20 février, Free Time, qui est le groupe pour les jeunes adultes des églises frais de la région. Donc, entre autres, l'Espérance, la Pélisserie et notre église sœur de Colonie, organise une visite à la Fondation Bodmer. Ce sera l'occasion de voir, de mieux comprendre la manière dont le texte, hein, la Fondation Bodmer, c'est une fondation qui a une collection de Bibles, entre autres, de toutes sortes de textes, voir comment le lien entre la foi et la raison a été développé durant le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et Free Time organise, pour faire passer tout ça, une raclette, pas dans le cadre de la Fondation Bodmer. Vendredi 4 mars, il y a le colloque et il y aura effectivement quelques votations. Du 25 au 28 mars, le service PAC. Oups là, peut-être que pour le service PAC, on peut s'inscrire auprès de Claudie qui sera là à la sortie et puis qui pourra vous donner, si vous êtes intéressé à cette action, plus de détails. Voilà, un instant sur le groupe mouvement. Le groupe mouvement, c'est donc un groupe mis en place pour réfléchir à qui nous sommes comme église et quelle église nous aspirons être. Donc, premier mouvement, qui nous sommes. Et c'est pour ça que ce questionnaire est à disposition à la sortie et que Jean-Yves, viens voir Jean-Yves. Jean-Yves se tiendra avec la boîte parce que distribuer les questionnaires, c'est une chose, mais...
Les rendre, c'est mieux.
Voilà.
Merci Michel.
Parce que le but, c'est d'avoir des informations sur qui nous sommes. Voilà. Et puis, mercredi 10 février, un anniversaire bien particulier, remarquable, les 90 ans d'Elisabeth.
Bravo.
Voilà, et puis une dernière information et recommandation au sujet du parking. Il n'y a pas de truc là. Vous voyez, c'est vraiment la bouteille à encre, le parking. Deux choses. Il y a devant les immeubles des places visiteurs, mais c'est les visiteurs des immeubles. C'est pas des places qui sont destinées à nos voitures. Donc vous êtes priés instamment de ne pas utiliser ces places quand vous venez au culte ou à d'autres rencontres ici, mais à les laisser libres pour les invités des habitants des immeubles. Ça, c'est le premier élément. Gardez, ne pas utiliser les places visiteurs. Le deuxième élément, c'est lorsque nous nous parquons devant l'église. Il y a un certain nombre de places. C'est vrai que parfois, on peut mettre deux voitures si les voitures ne sont pas trop grandes, mais il y a eu quelques réclamations parce que les voitures étaient un peu trop longues, peut-être pas très très bien serrées, et elles empiétaient sur le chemin. Et des voisins se sont plaints auprès de Roger que ça causait des désagréments. Alors pour vivre en bonne harmonie avec notre environnement, prenez garde lorsque vous vous parquez à ce que votre voiture, si c'est la deuxième, n'empiète pas sur la rue, mais qu'elle soit vraiment dans le cadre des places qui sont dessinées. Merci.
Pour conclure notre culte, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Voilà le projet de Dieu pour nous. Continuer dans sa paix. Que sa paix soit sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.